Je ne sais pas si je vais traiter du sujet comme vous l'auriez voulu, peut-être. Lorsqu'on m'a proposé ce sujet, j'étais tout d'abord très intéressé, puis ensuite, j'ai commencé à me demander d'où venaient non seulement ces questions, mais qu'il y ait des gens qui se posent ces questions, qu'il y en ait d'autres qui veulent y répondre, qu'il y en ait encore d'autres qui font des conférences. Et je voudrais juste un tout petit peu profiter de l'occasion, puisque on nous entend de loin, pour essayer une fois de traiter le sujet à ma façon. Je me suis dit, lorsqu'on s'interroge sur ce que nous savons de Dieu, il y a deux manières. La première manière, c'est d'étudier ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a révélé au Har Sinaï, au Mont Sinaï. Et la deuxième manière, qui n'est donc pas du domaine de la réponse, mais qui est du domaine de la question, c'est de voir dès l'origine des Avraham Avinu qui, d'après ce que nous savons, est le premier qui a eu cette idée de Dieu. Comme il est difficile pour nous de refaire ce chemin-là, je me suis dit qu'il fallait peut-être d'abord regarder dans la Torah, dans ce qu'il a bien voulu nous révéler. Pour savoir ce qu'est quelqu'un, lorsqu'il est intervenu à un moment de l'histoire, on doit se demander peut-être ce qu'il veut. Et à travers ce qu'il veut, on pourra savoir un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Il y a un verset dans la Torah que tout le monde connaît. Le verset dans la Torah est répété dans la paracha d'abord de Re'e, et ensuite plus loin dans Devarim, dans la paracha de Nitzavim. Ine natati lefanecha, j'ai placé devant toi achayim la vie, v'amavet la mort. Et Dieu nous dit, ubacharta bachayim, tu choisiras la vie. Le Sifri, qui est le Midrash Halakha, sur le cinquième livre de la Torah, nous demande pourquoi Ubacharta Bachayim, pourquoi tu choisiras la vie. Est-ce qu'il s'agit d'un conseil? Et il nous dit non. Natati le Fanecha, j'ai placé devant toi. Seulement dis à Kadosh Baruch Hu, moi aussi j'ai le droit de te dire ce que je pense. Peut-être même plus que ce que je pense, peut-être ce que je veux. Et ce que je veux, c'est Ubacharta Bachayim, que tu choisisses la vie. Quelqu'un qui y veut, c'est quelqu'un qui s'engage. Vouloir, c'est non seulement engager l'autre, mais s'engager. Et il y a, dans ce Ubacharta Bachayim, tu choisiras la vie, il y a deux aspects. L'aspect de cette volonté qui s'exprime, et aussi l'aspect d'un certain but, parce que lorsqu'on exprime une volonté, c'est pour aller quelque part. Ou pour donner, ou pour recevoir, ou pour faire, mais c'est pour un certain but. Je me suis donc dit que, si on veut savoir qui est Dieu, nous, hommes, en essayant de savoir ce qu'il veut, entre parenthèses de nous, ou pour nous, c'était en étudiant et cette volonté et ce but qu'on pouvait y arriver. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Tout le monde connaît le verset qui décrit la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, dit la Torah, a pris afar min adama, il a pris un petit peu de terre, et il a insufflé à cette terre nishmat chayim, mot à mot, nous traduisons ça en français, un souffle de vie. Nous ne comprenons pas ce que c'est que ce souffle de vie. Mais nous comprenons que cette création obéit à une volonté. Et que cette volonté s'exprime de cette façon. Et le verset continue et dit, « Vayhi Adam, et alors l'homme fut Nefesh Chaya. » Nefesh Chaya, cela voudrait dire, on traduit en français un être vivant. Lorsqu'on insuffle de la vie, l'autre devient un être vivant. C'est pour ça qu'on a besoin de la traduction de Onkelos, le Targum, traduit « Ruach Memalela », quelqu'un qui parle, quelqu'un qui s'exprime. Qui dit parler, qui dit s'exprimer, dit quelqu'un qui veut. L'expression d'Akadosh Baruch Hu que nous connaissons, c'est l'homme. Va y faire Be'apav, il lui a insufflé. Lorsqu'on insuffle quelque chose, on insuffle quelque chose de soi-même. Et qu'est-ce que c'est que ce soi-même? C'est ma volonté de vivre, que je traduis par mon expression des choses. Ruach Memalala veut dire celui qui parle, celui qui s'exprime, celui qui veut, celui qui désire. Ce désir de HaKadosh Baruch Hu s'est traduit dans l'homme par le désir d'être, en premier lieu. Peut-être le désir d'avoir, mais par un désir, par une volonté. C'est ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de Sfarim. Lorsqu'on voit que la Neshama, ce qu'on traduit imparfaitement en français, qui n'est pas le souffle, mais on dit l'âme, c'est la volonté. J'ai une volonté qui m'a insufflé cette volonté et d'être, et d'avoir, et de vouloir, ça n'est pas moi. C'est l'expression, c'est la traduction de la volonté d'Akadosh Baruch, de la volonté de Dieu. Je ne sais de Dieu que ce qu'il a créé, pour l'instant. Ce qu'il a créé, je ne peux le traduire que comme étant une volonté propre. L'être, c'est quelque chose qui est difficile de discerner parce que ça n'est ni le nefesh qu'on traduirait par la personnalité, ni le gouf, ni le corps, mais c'est cette certaine volonté d'être. Vaïpar ba'apav nishmatraïm, il lui a insufflé cette volonté. Et lorsqu'on insuffle une volonté, l'autre veut. Ça, c'est la première chose que l'on peut discerner. Et on va continuer. Vous savez qu'en hébreu, les termes ont une importance extraordinaire du fait que ça n'est pas le langage qui désigne des objets, c'est que ce sont les objets qui ont été créés par le langage. Neshama, nous disent les Chachamim, ce sont les mêmes lettres que Shemen. Shemen, on le traduit imparfaitement en français, l'huile, l'essence. L'essence d'un fruit, l'essence d'une plante, l'essence de quelque chose, Shemin, ce qui vient de. La Neshama, c'est ce qui vient d'Akadosh Baruch. C'est l'expression de cette volonté. Ce sont les mêmes lettres. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut comprendre. Si on réfléchit, ça va très loin. Parce que nous nous posons, et là, nous allons rejoindre la démarche d'Avraham Avinu. Nous posons et nous comprenons qu'il ne peut y avoir. Et comme ça nous dit Maïmonide, le Rambam, au commencement des Halachot, Ilchot Yesod et Torah. Nous ne concevons l'idée de Dieu que comme celui qui est Haya, Ove, Veyye. C'est-à-dire, celui qui a toujours été et qui sera toujours. Et nous, nous possédons en nous une partie de ce qui sera, qui a été, ce que nous appelons être. Cet être-là que nous possédons en nous, il vient de cette volonté-là. Vayi farba par nishmatraim. Elle s'est traduite par la création de l'homme. C'est la raison pour laquelle il a toujours été simple pour les Chachamim. Et c'est marqué dans la Torah que l'homme a été créé pour être infini. Là, je ne voudrais pas me lancer dans des débats pour savoir est-ce que celui qui n'a pas de fin, il n'a peut-être plus de début non plus. il est une possibilité pour l'homme d'être l'expression de ce qu'a voulu Akadosh Baruch Hu, donc d'être, et qui retraduit et qui reflète l'être. Ce Hayao Veveillé qui a toujours été, qui sera toujours, c'est l'être en soi. La différence, c'est qu'il a quand même été créé, il a un début, et que cette possibilité d'infini, cette vision, ce désir, cette volonté d'être, qui est infinie, parce qu'il n'existe pas d'homme qui n'a pas ce besoin, cette volonté d'être, elle peut presque effacer le début. Et c'est ça le problème de l'objet qui n'a pas de fin, qui est infini, il n'a peut-être plus de début non plus, en tout cas le début s'estompe et s'efface. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre. Il y a un verset dans les Tehillim que tout le monde connaît. Et ce verset, on va pouvoir l'expliquer des deux côtés à double sens. Anota ozena lo ishma im yotzera im alo yavit amelamed adam da'at. Anota ozen, celui qui a planté l'oreille, qui a donné, nous allons traduire ça, la faculté d'entendre, mais aussi le désir d'entendre. Anota ozen alo ishma, est-ce que lui n'entendrait pas? Celui qui m'a donné la faculté, le désir d'entendre, est-ce que lui n'entendrait pas? Im yotzerayin alo yabit, est-ce que celui qui a créé l'œil, est-ce qu'il ne voit pas? En essayant de comprendre la démarche du créateur envers l'objet créé, on va pouvoir aussi découvrir le créateur, puisque c'est ça la démarche du verset. Ayotzerayi, si tu as un œil, c'est qu'il a aussi un œil. L'œil pour nous, l'oreille pour nous, les facultés que nous avons, ce sont aussi ces expressions de Ruach Mehalala. C'est une façon de nous exprimer. Là non plus, je ne voudrais pas rentrer dans un débat qui est plus large, qui est celui qu'on appelle la phénoménologie, c'est-à-dire du problème de la perception. Je vois ce que je veux voir, j'entends ce que je veux entendre. L'ustensile ne peut être utilisé qu'avec la volonté de l'utiliser. Ça, les Chachamim l'ont découvert et l'ont compris. Aujourd'hui, on le dit, vous pouvez regarder, c'est intéressant, au nom de Merleau-Ponty, Lévinas. Ayot Serayin Aloyabit veut dire tu as une volonté de voir. C'est donc que quelqu'un a voulu voir aussi quelque chose. Et a la possibilité de voir aussi quelque chose, sinon tu ne l'aurais pas eu. Donc à travers ce que je perçois et ce que je veux percevoir, je pourrais peut-être découvrir quelquefois ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même perçoit et veut percevoir. Parce que puisque nous avons commencé, nous avons dit Baifar Ba'apav, Nishmat Chaim, il y a cette volonté qui existe et elle est mienne, c'est donc le reflet d'une autre volonté que je peux connaître à travers cette petite volonté qui est la mienne, qui m'a été donnée, que j'ai fait mienne, mais qui est un petit peu non seulement indépendante, mais qui m'est souvent étrangère. Ça, c'est le deuxième point. Et on comprendra que pour les Chachamim, le problème a toujours été être ou avoir. Parce que qui dit volonté d'être, ce que nous appelons Yetzer Hatov, on traduirait la bonne volonté, le bon désir. À partir du moment où on a été exprimé par une volonté et qu'on a acquis cette indépendance de vouloir soi-même, on a droit aussi au mal. On a droit aussi au Yetzer Hara, à ce désir, à cette volonté du mal. La volonté du mal, les Chachamim le traduisent par le verbe avoir. C'est pour ça que il n'existe pas en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Il n'existe même pas en parlant de l'homme. L'homme en hébreu s'appelle Ish. Ish en hébreu veut dire être, Yesh. Le problème de l'être ou de l'avoir, c'est justement le problème de l'infini ou du début. Le début, c'est celui qui doit recevoir, qui a besoin d'avoir, qui a besoin de se nourrir, qui est dépendant. Et la fin, c'est l'être. Celui qui acquiert l'indépendance, qui n'a plus de besoin. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être effacer le début. Lorsqu'on trace une ligne droite et qu'on ne la finit pas, ce début qui s'estompe, c'est ce besoin d'avoir de l'homme. D'avoir reçu et de recevoir toujours. Comment soumettre l'avoir à l'être? Pour les Chachamim, cela veut dire comment soumettre ces deux possibilités que j'ai à cette volonté d'être, d'infini, que possède l'homme et qui lui vient d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous avons posé que lui-même l'est. Ça, c'est le troisième point. Le Midrash nous raconte, à la fin de la paracha de Noach, l'histoire d'Abraham Avinu qui pour nous est extraordinaire. Abraham Avinu, lorsqu'il était jeune, très jeune, nous dit le Midrash, « Ikir et Boro ». Ikiret Boro, ça veut dire a reconnu Dieu. Il est arrivé à poser philosophiquement, il a trouvé un système dans lequel il était obligé de concevoir que s'il avait envie, il avait besoin, il avait le désir d'être, c'est que ce désir lui venait de quelque chose qui est. Et Abraham Avinu a commencé le problème, qui est le vrai problème de la question « Que savons-nous de Dieu ?» parce qu'il faut savoir qu'est-ce que ça recouvre, c'est quelle est la relation entre le Créateur et l'être créé. C'est ça le vrai problème. Et alors il a commencé à s'opposer à l'idolâtrie, et nous dit le Midrash, on l'a enfermé d'abord pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il renonce à ses théories. Et puis après, lorsqu'il ne voulait pas renoncer, on l'a précipité dans une fournaise. Et il s'en est sorti. Selon nous dit le Midrash, au moment où on a précipité Avraham Avinu dans la fournaise, à ce moment-là même, il a eu une parole. Et il a dit, « Ein baal babira. » Il n'y a personne qui est aux commandes ici. Il est impossible que Dieu laisse un homme seul reconnaître une vérité sans essayer de le sauver ou essayer de profiter de la vérité qu'il a révélée. Nous dit le Midrash, si c'est le Rechaïm, si c'est le méchant, si c'est le mauvais qui a le dessus, c'est que En Babalabira, c'est que Dieu ne s'occupe pas du monde. Il a laissé l'homme entièrement libre. Il ne dirige pas l'histoire. Au moment où il est tombé dans la fournaise, il n'a pas été brûlé, à Kadosh Baruch Hu lui est apparu et lui a dit, Ani Balavira. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dirige. Quel était le système philosophique d'Abraham Avinu pour croire que Dieu avait créé l'homme et qu'il l'avait laissé entièrement indépendant? Pour nous, il est peut-être difficile de le reconstituer. Ceux qui ont cette idée naturellement ou qui ont eu envie de l'avoir arriveront peut-être plus facilement. Mais en tout cas, il en était à penser cela. Et là, il y a une chose, une question extraordinaire. Un homme qui pense que le monde est livré à lui-même, qu'est-ce que cela peut lui faire de renoncer à une idée? Pourquoi serait-il brûlé pour une idée, puisqu'il pense que de toute façon, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de but qui a été assigné par Akadosh Baruch Hu au monde? La réponse est très simple. À partir du moment où un homme conçoit qu'il existe une certaine dimension de l'être, à partir du moment où il se rend compte qu'au fond, ce qu'il vit, c'est ce qu'il veut vivre, peu lui importe les conséquences et peu lui importe le système. Abraham Avinu a été capable, non seulement de ne pas attendre qu'Akadosh Baruch Hu le sauve, mais de penser qu'il n'y avait aucune signification particulière dans l'histoire à son geste. Et il n'a quand même pas renoncé. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous? Ça peut vouloir dire déjà une chose. C'est que la façon que j'ai de concevoir cette volonté de vivre, cette volonté d'être qui est la mienne, et qui est celle de l'homme jusqu'au bout, à travers toutes les souffrances humaines et inhumaines qu'il peut supporter. Cette volonté d'être, de vivre, d'exister, elle est indépendante des événements que l'on traverse. Ça, c'est ce que l'on peut retenir d'Abraham Avinu. Si j'ai une idée, si j'ai une façon de vivre, si je suis de telle façon, peu importe ce que j'aurai, l'avoir n'existe pas. Puisque en ce moment, c'est ma façon d'être. De se faire jeter dans une fournaise, c'est une façon d'être. Ce n'est pas une façon d'avoir quoi que ce soit, mais c'est une façon d'être. Et il a pu exister un homme qui nous a montré que cette façon d'être en soi, elle n'avait besoin d'aucun avoir. Elle n'avait besoin d'aucune nourriture, elle n'avait pas besoin de se sustenter de quelque chose. Ni de bonheur, ni peut-être même de vie. Et ça, il faut voir jusqu'où ça va. Nous avons dit qu'à travers ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, cette volonté qu'il a exprimée, tu vivras ou bachar tabachaim, choisis la vie. Cette volonté qui a été exprimée, elle doit traduire un petit peu ce que nous pouvons percevoir de lui. Le Rambam au commencement des Hilchot Yesodei HaTorah, il dit une fois que nous avons posé que Dieu est Haya Ove Veyye, c'est-à-dire que pour nous c'est l'être. Nous devons comprendre que En Amitato, que Amitat Achat Minan Ivraim, sa vérité ne ressemble pas à la vérité de celui qui a été créé par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va voir la difficulté de la perception. Là, on va mesurer cette question. Que pouvons-nous savoir de Dieu? La vérité, pour moi, c'est lorsque je mesure un objet, une distance, et que j'arrive au mètre. Ce mètre est vrai dans la mesure où il correspond à celui qui est déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres. Voilà ce que c'est pour nous la vérité. La vérité, c'est de coller à une référence. Cette référence colle à une autre référence. Et ainsi de suite. Je ne pourrai plus savoir dans mon jugement, dans mes idées, quel est le début et quel est le critère de la première chose que j'ai appelée la vérité. Parce que pour nous, la vérité, c'est de correspondre à quelque chose. Amitato, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, ne correspond à rien. C'est ce que dit le Rambam. Ça n'est pas une correspondance à quelque chose. C'est une source de vérité. C'est l'étalon. C'est le maître qui est déposé au pavillon de Breteuil. Lorsque je me mesure à cette vérité-là, j'ai donc deux moyens de l'apercevoir. À travers ce qui existe comme vérité chez moi, puisque je suis obligé de remonter à la source, qui est une vérité qui m'a été transmise, qui m'a été donnée. Et peut-être que, en fin de compte, la seule vérité, c'est cette volonté d'être, d'exister. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui pensent que la seule vérité, les seuls critères, la seule éthique, la seule morale, c'est ce qui va dans le sens de la vie. Et aujourd'hui, un grand philosophe en France écrit des livres là-dessus. Il n'y a de vrai, je ne peux imposer à l'autre que ce qui va dans le sens de la vie. La bombe atomique, c'est faux. La preuve, c'est que les rats n'ont aucune envie de créer la bombe atomique. Au contraire, ils ont envie de se perpétuer. C'est le sens de la vie. Peut-être que ce n'est pas si simple que ça. C'est peut-être pas seulement ça. C'est que peut-être à travers... Et c'est là où nous avons besoin de la révélation, puisque nous avons vu qu'Abraham Avinu lui-même, il n'a pas compris quelle était la vérité de Dieu. Il n'a pas compris que le monde allait dans un certain sens et que Qui dit volonté, dit but. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à l'homme, au mont Sinaï, il était obligé de lui expliquer sa vérité. Comment ? Par une référence. Parce que c'est notre vérité, nous n'avons pas le choix, nous. Vous ne pouvez pas comprendre autrement. Il lui a dit, Anochi Hashem Elokecha, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Qui c'est ? Quoi ? Moi je suis obligé d'avoir une référence. Asher Otseticha Meret Mitzrayim. C'est moi qui t'a sorti des. D'abord un événement. Il fallait créer l'événement pour pouvoir créer une vérité. C'est la raison pour laquelle nous disent les Chachamim. Il y a marqué 5 fois dans la Torah une expression de manière différente mais pratiquement la même, Ve'alarta Bidrachav. Tu marcheras dans ses voies, SES. Les voies d'Akadosh Baruch. Nous sommes donc obligés, à partir du moment où nous posons cette idée de Aya Ove Veye, ça c'est la force du Rambam, c'est d'avoir compris le corollaire immédiat que s'il y a un être duquel je suis l'expression, je ne pourrai pas approcher ce qui est vrai sans révélation. Ma vérité n'a aucun rapport avec la sienne, aucun. Elle peut être seulement l'expression de ce qu'il a bien voulu m'insuffler. C'est pour ça qu'il dit, tout de suite, Aya Oveveye, voilà. Ça, c'est la définition, la seule que je connaisse d'Akadosh Baruch Hu. Le Fichar, c'est pourquoi En amitato kamitata khatmei an Ibrahim. Il est impossible que sa vérité soit ce que nous appelons la vérité. C'est-à-dire que le sens, le but des choses, soit ce que nous croyons. On est obligé de se référer à une révélation. Et même Avraham Avinu, il pensait que le monde était laissé aller à lui-même. Alors qu'au contraire, le but de l'homme, et c'est là le deuxième volet du problème, il est à déterminer. Ce qui m'arrive, c'est le produit non seulement de ce que je veux, mais de ce que l'autre veut, et sûrement de ce que Akadosh Baruch Hu veut. Ça, c'était l'erreur d'Abraham Avinu. C'est pour ça que lui aussi a eu besoin d'une révélation. Et nous dit la Torah, Kadosh Baruch Hu est apparu à Avraham Avinu. C'est la fin de la démarche possible. Même lui a eu besoin d'une révélation. Celui qui croit pouvoir trouver quelque chose sans révélation, la Torah vient nous dire tout de suite, Avraham Avinu, c'est le premier qui a eu l'idée de la première partie du Rambam. Aya Oveveye, il existe un être. Il existe l'être. Il existe l'existence en soi. Ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'on appelle le Emet ? Akadosh Baruch Hu, l'état paru, le dit, attends. Lech lecha me'artzacha, voilà, je vais faire quelque chose de tout. Sinon, ça mène à une négation, ça mène à la fournaise. Sans avoir de sens. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez qu'il est marqué dans les Sfarim que rien ne peut subsister dans le monde sans la volonté d'Akadosh Baruch. Toute la tradition juive est pleine de ça. Comment est-ce que les Chachamim ont eu cette idée-là? Vous ouvrez le livre de Rabbi Chaim de Volozhin, Nefesh HaChaim. Il explique la chose très simplement. Je vais essayer de la dire encore plus simplement. Lorsque je fabrique une chaise, j'ai pris divers éléments. Lorsque cette chaise se tient par une mortaise, lorsque je mets un clou, j'utilise un autre élément. L'un supporte l'autre et l'un tient l'autre. Ça, c'est bon pour un objet, c'est bon pour les hommes. C'est ce qui est marqué « Ish et achiv yom achazak ». C'est-à-dire que l'un est solidaire de l'autre. Mais lorsque je vais créer à partir du néant, lorsque je vais commencer, qu'est-ce qui va soutenir ? C'est ça, va y par ba par nishmatraim, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je suis obligé, moi, d'utiliser un matériau. Je peux bâtir à partir d'un matériau. Mais ce matériau lui-même, à partir d'un autre matériau, encore et encore et encore. Le premier. Le premier ne tient que par la volonté de celui qui l'a créé. Il n'y a pas de matériau en dessous. Donc je serai obligé, si je ne veux pas retomber dans l'erreur d'Avraham Avinu, de commencer à construire mon système en me disant que tout ce qui tient, tout ce qui se passe, tout ce qui est ce qu'on appelle murkav, c'est-à-dire qui est construit, tout ce qui vit, est le produit de cette volonté. Et il n'y a pas d'événement possible sans cette volonté-là. Et alors on va commencer à comprendre qu'il y a une Gemara dans Shabbat. La Gemara nous dit, qu'est-ce que veut dire « Va'alachta bidrachav » Tu marcheras dans ses voies. Quels sont ces chemins-là? C'est ce que Dieu a révélé à Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté vers le Sinaï, il lui a dit « Hachem, Hachem » deux fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est Hachem? Avant et après. « Kel rachum v'chanun erechapayim v'rav chesed v'emet » Rachum, celui qui a pitié. « Chanun », celui qui aide. « Erechapayim » longanime. « Rav chesed », celui qui prodigue la bonté. « V'emet » c'est la limite de la bonté. Ve'alachta bidrachav, c'est une mitzvah de la Torah. Cinq fois c'est répété dans la Torah. Les drachim, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Attention à deux possibilités. Ou tu vas percevoir chez toi comment tu fonctionnes, ou tu vois ce qu'il t'a révélé du fonctionnement. Et il y a toujours cette dualité-là. Lorsque dans la Torah il y a marqué le tir tsar, tu ne tueras point. Est-ce que ça veut dire que c'est une volonté extérieure à la mienne? Ou ça veut dire que c'est le révélateur de ma volonté? Nous nous disons Maaseh Avot Siman Labanim. Lorsque nous voyons Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce qu'ils ont fait, traduit littéralement, ça veut dire Maaseh Avot, l'œuvre des pères, Siman, c'est un signe. C'est une référence, Labanim, pour les enfants. Tu veux savoir comment te conduire? Regarde ceux qui ont compris plus que toi. Mais en vérité, le pshat est aussi de l'autre côté. Maaseh Avot. L'œuvre des pères, c'est un signe, Labanim, jusqu'où peuvent arriver les enfants. Jusqu'où je peux arriver? Tu regardes Avraham, Yitzhak et Yaakov, jusqu'où eux sont arrivés. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ça, c'est valable pour notre perception d'Akadosh Baruch Hu. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qu'il a bien voulu me révéler. Mais d'un autre côté, moi aussi, je pourrais percevoir avec les yeux qu'il a bien voulu me donner. C'est pour ça que le jeu est tout à fait faussé. Celui qui comprendra tous les mystères de la Kabbalah. Et on arrivera peut-être à lui expliquer pourquoi il y avait obligation de le créer avec cinq doigts. Seulement si son esprit, si sa logique, si sa compréhension avait été déterminée autrement, il aurait compris pourquoi il a été créé avec six doigts. Ça, on n'arrivera jamais à le changer. Je ne peux percevoir Anota Ozen, Aloishma. Tu ne peux percevoir que avec l'ustensile qui t'a été donné. C'est pour ça que, en essayant de voir cet ustensile, je peux avoir une idée. Mais il me faudra toujours le deuxième pôle, c'est une révélation. C'est ça la nécessité du Har Sinaï. C'est ça la nécessité de la mitzvah qui a été dite à Avraham Avinu. Lech lecha me'artzecha, voilà. Anibal Abira, il y a quelqu'un, il y a un propriétaire. C'est pas Efker, le monde ne marche pas comme ça. Ces deux pôles-là, c'est quelque chose qui va très loin. Et alors attention ici, va s'articuler un nouveau problème. Si la Torah me dit « tu ne tueras point », c'est qu'on m'a donné aussi la possibilité de tuer. C'est donc que cette expression d'Akadosh Baruch Hu que je suis est écartée de lui au point qu'il doit me laisser tuer. Ça va très loin, ça. On ne peut pas me dire, tu possèdes en toi la faculté de l'otir tsar de ne pas tuer, donc de tuer. La faculté de ne pas voler, donc de voler. Si Dieu ne m'a pas donné justement cette faculté, des deux côtés, puisque nous avons dit que vaïfar ba pav nishmat raïm, c'est l'être et la voix. Et justement, peut-être que cet être qui tend vers cet infini, c'est avec l'avoir qu'on va essayer de le mesurer. Alors on ne peut pas se plaindre. Et de l'autre côté, c'est difficile de venir demander, mais lorsque mon voisin a tué sa belle-mère, où est-ce qu'il était Dieu? On t'a dit de ça. Ça ne résout pas tout. Mais ça, on est obligé de le poser. Il y a dans les prophètes, dans le prophète Micha, au sixième pérec, sixième chapitre, le prophète Micha fait un petit peu la quintessence de la révélation. Il dit ceci. Igid lecha adam matov. On est venu, on t'a dit ce qui était bien. D'abord, on va expliquer l'expression tov, bien. Lorsque Dieu a créé le monde, nous dit la Torah, vayar Elohim ki tov. Il a créé en premièrement la lumière. Vayar, il a vu ki tov. Nous, nous traduisons, c'était bon, c'était bien. Chacham nous traduit un petit peu autrement, il dit, c'était adapté. Parce qu'il n'y a pas de bon, puisqu'il n'y a pas de mal. Puisque c'est ça la création. Qu'il n'y a pas deux possibilités. Parce que la possibilité du mal, elle vient de l'avoir, qui n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Aya Oveveï est toujours la même chose. Donc Tov, on le traduit adapté, exact. Igid lecha adam matov. Dieu t'a dit ce qui était exact. Uma Hashem doresh meimach. Qu'est-ce qu'on te demande? Quel est le but de l'opération? Trois choses. Asot mishpat va'avat chesed va'atzne alecha im Hashem Elokecha. Asot mishpat. On va bien traduire les mots. Asot, pratiquer, faire. Mishpat, de nouveau, nous nous traduisons comment la justice. En vérité, ce n'est pas la justice, mais c'est l'équilibre en hébreu. Parce que le mot shofet, qui est l'anagramme du mot tipesh, déséquilibre, le mot shofet veut dire équilibre, une action équilibrée. Asot mishpat, va, travail fait, mais d'une façon équilibrée, juste. Ahavat reset, ça c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut aimer, c'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être proche de moi, qu'est-ce que je veux avoir? Ahavat reset, faire du bien à l'autre. Ve'atzne alechet, motamo, atzne alechet veut dire une façon pudique de marcher, marcher avec pudeur, lifne Hashem Elokecha devant Dieu. On va essayer de traduire ces termes-là. Ces trois termes, c'est les trois thèmes qui sont utilisés dans la Torah pour nous dire et pour nous expliquer la démarche de Dieu vis-à-vis de l'homme. Asot, faire. Beyom asot Hashem Hashamayim v'taretz. Le jour où Dieu a fait la terre et le ciel. Asot, faire, créer. L'action de créer, c'est celle qui détermine ce que je suis. Ce que je fais, c'est l'expression de mon être. Je suis donc ce que je fais. Qui est Dieu? Asherot Setticha Meretz Mitzrayim, celui qui t'a fait sortir. Voilà ce qu'il est. Asot, faire. Ahava, voilà ce qu'il aime, c'est-à-dire, voilà de quoi est-il proche. Il a créé l'homme. Il a donné une possibilité à une autre volonté, produit de la sienne, d'exister. À un autre être, d'être infini. Ahava, tresed. Ce qui est marqué dans la Torah, va hevecha. Dieu t'a aimé. C'est-à-dire, il t'a aimé. Il t'a donné la possibilité d'être. Vatzne alechet im Hashem Elokecha. Dans la Torah, il y a une troisième façon de relation entre Dieu et l'homme. C'est Aolech imchem, Aolech itra. Celui qui marche avec toi. C'est-à-dire qui te conduit. Comment il te conduit? Sans exigence, avec pudeur. Modestement. Ou bachar tabachayim. Ça n'est pas une exigence, ça n'est pas un besoin. Puisque nous avons dit que cet avoir, ce besoin d'avoir, cette nourriture, puisque l'avoir c'est une nourriture, ça vient de notre début, ça vient de notre création, ça vient de notre dépendance. Mais celui qui est à Yahweh, il n'a pas de besoin, il n'a pas de nourriture à avoir, il n'a pas besoin d'être supporté par quelque chose, il n'a pas besoin de support. Vatzne alechet. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire minimiser le support au maximum. C'est ça la pudeur. C'est ça la modestie. Et ça, nous le disons dans le Hallel. On dit une phrase incroyable, personne ne s'en rend compte. On dit dans le Hallel, Hodou l'Hachem ki tov ki l'olam chasdo. Hodou, remercier Hachem, Dieu, ki tov, car il est exact. Allons traduire. Ki le olam chasdo, sa bonté, elle est olam, elle est éternelle. Elle est de toujours, elle est à chaque moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui peut dire que c'est à chaque moment? Dit le Midrash, bien sûr, c'est à chaque moment. On ne te prend jamais rien. Et si on te prend quelque chose, c'est ce qu'on t'a donné. Le Hashir Beshoro, le Hani Beseo. Celui qui est riche, on lui prend sa vache. Celui qui est pauvre, on lui prend sa chèvre. C'est ce que ça veut dire. Odou l'Hashem Kitov, Kile Olam Chazdo. On ne peut rien te reprendre qu'on ne t'ait donné. Kile Olam Chazdo. Et tout de suite, ça c'est le problème. Ce qu'on appelle aujourd'hui, puisqu'on en parle beaucoup en médecine, du problème de la douleur. Le problème de la douleur, c'est le problème de l'être sans avoir. C'est l'angoisse pour un homme, justement, lorsqu'il ne vise pas l'éternité, lorsqu'il ne vise pas l'être. On ne lui prend que sa nourriture, ce dont il a besoin. Son être, on ne lui prend pas. Lorsque quelqu'un est réduit à ça, ce qu'on appelle la détresse. La douleur de la douleur, c'est la détresse. C'est la solitude. C'est l'éternité qui sort. C'est l'angoisse. Parce qu'au lieu d'être parti dans ce sens-là, on est reparti vers le début. C'est ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est de revenir au début. D'être pour avoir. Et pas d'avoir pour être. C'est ça le problème de la douleur. Et nous, nous disons, nous avons encore le culot de dire « Odou l'Hachem ki tov, ki le olam chasdo ». Tu ne peux jamais te plaindre. Le olam chasdo, tu auras toujours quelque chose. Puisque tu peux être et que tu as débuté quelque chose, tu as une nourriture. Le olam chasdo. Ah, tu voudrais plus, tu voudrais encore plus. Marche avec pudeur, marche avec modestie. Enfin, quand on va arriver à quoi ? On va arriver à l'idée d'un corollaire. Hashem, Hashem, El Rachum, Bechanun, Erech, Apayim, Verab, Chesed, Vemet. Dieu est quelqu'un qui donne. Emet aussi, il y a une vérité. Nous allons voir tout à l'heure que nous aussi, nous avons une vérité. Ce n'est pas la même. Ça, c'est ce qui a été révélé, ce qu'on a vu. C'est comment on nous a ouvert les yeux. Asherot, Seticha, Meret, Mitzray. Et si vous regardez dans la paracha de Vayera au commencement, lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, dis-moi ton nom, qu'est-ce que ça veut dire ton nom? Dis-moi ce que tu veux faire, ce que tu fais. Il lui a dit, Eheye Asher Eheye, je suis celui qui sera comme il a été. Rashi traduit dit, comme je me suis conduit avec vous dans cette galoute, je me conduirai dans une autre galoute. C'est-à-dire, il faut crier pour qu'il intervienne, il faut pleurer pour qu'il intervienne. Et Moshe Rabbeinu n'a pas osé leur dire ça. Il n'a pas osé leur dire, vous êtes indépendants. Quand vous avez besoin d'Akadosh Baruch Hu, c'est que ça ne marche plus. C'est ça le sens de la vie. C'est ça cette volonté que vous avez d'être. Lorsque vous êtes obligé de vous nourrir de quelque chose, d'être supporté par quelque chose, c'est que ça ne va plus. Parce que Ruach Haïm, exprimez-vous, vous êtes indépendant. Ruach Memalala, ça veut dire celui qui parle, celui qui a quelque chose à dire. Celui qui, ça vient de lui, ne se raccroche pas à un autre. Et Moshe Rabbeinu, il a eu peur, dit Rashi. C'est pour ça que dans le verset après, il y a marqué, « Eheye shalachani alechem. » Celui qui est en train de vous sortir, c'est lui qui m'a envoyé. Il n'a pas osé dire, « Asher, Eheye. » Attention, ça va se répéter, ce sera toujours comme ça. Tu veux savoir qui c'est Anochi, qui c'est celui shalachani alechem qui m'a envoyé. C'est celui dont tu as besoin lorsque tu n'arrives plus à t'en sortir. Et tu auras toujours besoin de lire rien que lorsque tu n'arriveras pas à t'en sortir. Ça, Eheye Asher Eheye. C'est pour ça que les Chachamim disent, dans le Midrash, sur la Paracha à Titro, Anochi, je suis moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu est venu, il a dit, Anochi Aleph, Ani, Nafshi, Katvit Yahavit. Je vous ai donné tout ce que vous pouvez comprendre. Comment est-ce que tu vas savoir ça? Asher Otsetir Ramir Mitzray. Voilà la référence, voilà la Torah, tout ce que tu peux comprendre, c'est là-dedans. Anim Nafshi, motamo, mon expression, ce qu'on a dit Nefesh, Katvit Yahavit. Je l'ai écrite et je vous l'ai dit. Voilà à quoi servait cet événement de la sortie d'Égypte. Pour qu'un jour je puisse venir et vous donner par écrit. Ani nafshi katvit yavit. Anochi. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Il y a une Gemara dans Shabbat. Kouf kavzaïn, la Gemara dit ceci. Kol adan et traviro le kavzchut. Tout celui qui juge l'autre avec bienveillance. Akadosh baruch hu dan le kavzchut. Dieu va le juger avec bienveillance. Attention, ça n'est pas le principe de Mida Koneged Mida qui est décrit dans la Gemara dans Sanhedrin, aucun rapport. Pas le temps maintenant d'expliquer pourquoi, mais Nichra, ça n'a aucun rapport. Une Mida, et nous disons qu'Akadosh Baruch Hu possède des Midot. Midot, nous traduisons ça en français par qualité. Mais en vérité, le Rambam, il le traduit par Deot, des expressions de pensée. C'est l'expression de quelque chose. Une vérité. Les midot qui sont les 13 midot qu'il a révélé à Moshe Rabbeinu, on appelle les midot d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où je vois que quelque chose existe chez moi, que j'ai une volonté de quelque chose, si j'arrive à la classer dans ce que la Torah définit comme être le bien et non le mal, ou dans ce que nous avons dit, c'est-à-dire d'aller du côté de l'infini et pas du côté du début, pas du côté de la nourriture de l'avoir, à ce moment-là, cette Mida-là existe chez Akadosh Baruch. Si toi, tu juges l'autre, le Kavzechut, avec mansuétude, c'est donc qu'Akadosh Baruch aussi te juge comme ça. Pourquoi ? La volonté de voir, elle t'a été donnée. Et là, Gemara raconte quelque chose, ça va très loin. Comment elle raconte une histoire? Maase Badam Echad chez Yarad Mina Galil. Il est venu de la Galilée pour travailler dans le sud chez un employeur. Il a travaillé pendant 3 ans. Il l'a bien servi au bout de 3 ans. Erev Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, a décidé de rentrer chez lui. Il lui a dit: donne-moi mon salaire, 3 ans de ça. Il lui a dit: je n'ai rien à te donner. Il dit: donne-moi de l'argent, j'en ai pas. Donne-moi des fruits de la terre, j'en ai pas. Signe-moi un acte pour une terre. J'en ai pas. Il est parti. Il est rentré à la maison. Après Yom Kippour, il a vu arriver son employeur. Il m'a dit avec 3 ânes chargés de cadeaux et avec tout son salaire. Il lui a dit: lorsque je t'ai dit que je n'avais rien, bema bame chashadtani, qu'as-tu pensé? Il a dit: lorsque je t'ai dit donne-moi des fruits de la terre, c'était Erev Yom Kippour, je devais m'en aller, je pensais que tes fruits n'étaient pas meoussarim, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prélevé les dîmes. Lorsque je t'ai demandé, donne-moi karim ou ksatot, donne-moi des objets, alors je me suis dit que peut-être tout ce que tu avais, tu l'avais donné au Beth Amikdash. Lorsque je t'ai dit, donne-moi une terre, je savais que tu possédais des terres, je me suis dit, mochechet bi'al acherim, peut-être elle est louée à d'autres. Et ainsi de suite. Il lui a dit: en vérité, je vais te dire la vérité. Tout ce que je possédais, idarti, j'ai fait vœu de ne pas en profiter. J'ai fait vœu que ce soit interdit à tout le monde. À cause de Rukanos Beni, chez l'Olamad Torah, qui voulait profiter de mes biens et ne pas étudier la Torah. Maintenant, je suis allé chez les Chachamim, et c'est la procédure de Pétard. Ils ont trouvé une façon par laquelle je puis enlever ce vœu. Que Shem Shedan Taoti le Kavzuchut, car Yadou notre Akadosh Baruch Hu le Kavzuchut. De même que tu m'as jugé avec bienveillance, Akadosh Baruch Hu aussi te jugera avec bienveillance. Ça, c'est l'histoire de la Gemara. Si on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'elle veut dire l'histoire? Il y a un employé, il y a un employeur. Celui qui est là malgré lui, il est là dans un but que lui n'a pas demandé, qui n'est pas déterminé par lui, mais pour lui, c'est un employé. De là vient l'expression en hébreu, la avod et Hachem, servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire obéir à un but qui n'est pas le sien, qui était choisi pour toi. Je te désigne ta tâche. C'est pas moi qui ai demandé à être créé. L'employeur, c'est Akadosh Baruch Hu. Toi, tu n'es qu'employé. Tu travailles, tu as ta tâche, mais il peut se passer énormément de choses au niveau de l'employeur qui ne changent pas du tout à ce que tu dois faire. L'employé pouvait travailler chez lui, les champs, ça pouvait être mochechet belachri, sans louer aux autres. Les fruits, le massin n'a pas été prélevé. Ah, les affaires, donner au Beit Hamikdash. Et on peut très bien travailler chez quelqu'un et ne pas savoir sur quoi on travaille et ce qu'on est en train de faire. Voilà la relation que nous avons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu est monté après 40 jours et 40 nuits au Har Sinaï, il a demandé à Akadosh Baruch Hu une chose. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu de voir, de percevoir plus loin. Et Dieu lui a répondu, Veraïta et Achorai, tu verras ce qu'il y a derrière. Ou Panaï, mais ce qu'il y a devant, lo iraou. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux voir ce qui s'exprime. Le but de chaque action, de chaque événement, lo iraou. C'est pas pour toi. Tu es employé, tu n'es pas employé. Si tu me juges le Kavzuchut, je te juge aussi le Kavzuchut. C'est ça le problème. Et on a dit, c'est pas Mida Keneged Mida, c'est pas simplement que je paye à quelqu'un selon la monnaie avec laquelle il me paye. C'est que si tu juges le Kavzuchut, c'est qu'Akadosh Baruch Hu aussi se conduit comme ça. Sinon, toi, tu ne pourrais pas juger le Kavzuchut. Ça n'existerait pas chez toi. Si ça existe, c'est que c'est comme ça que ça marche. Mida Keneged Mida, c'est la façon dont on procède. Alors, on procède avec moi, mais pas dans la façon de voir les choses. Mida Keneged Mida, je ne voudrais pas rentrer maintenant dans ce débat-là. Mida Keneged Mida, c'est lorsque je tiens un raisonnement, je m'attire dans l'événement ce que j'ai créé. Alors qu'ici, on est en train de dire le contraire. J'ai révélé ce qui existe chez Akadosh Baruch Hu. Mina Keneged Mina, ça veut dire, on te donne la vie que tu veux. Tu veux vivre ce genre de vie-là, tu l'auras. Alors qu'ici, on est en train de dire, attention, dans Mina Keneged Mina, il y a une autre dimension qui n'a rien à voir. Ce que tu éprouves, ce que tu exprimes, c'est que ça a été exprimé avant toi, sinon tu ne pourrais pas l'exprimer. C'est dans l'autre sens. C'est juste ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. En vérité, il faudrait maintenant parler du problème du mal, mais c'est pas le... Il y a sûrement quelqu'un qui posera la question. J'en arrive à la fin. Comment puis-je juger le Emet, puisque je dis que je ne peux pas juger étant un produit, je ne peux pas juger de la fabrique. Alors là, je suis obligé de raconter une histoire, peut-être tout le monde la connaît. La Gemara dans Baba Metzia, Dafnon Gim, la Gemara raconte l'histoire de Tanouro chez l'Achnaï. Il y avait un monsieur qui s'appelait Achnaï. Il avait un four. Très banal. Les Chachamim ont une grande discussion pour savoir comment juger de la pureté ou de l'impureté de ce four. S'il était rendu tamé, il était rendu impur. Il y a une discussion entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit son avis, les Chachamim étaient d'avis contre. Rabbi Eliezer a dit, si c'est moi qui ai raison, que les murs du Beit HaMidrash tremblent, les murs ont tombé. Si c'est moi qui ai raison, tout le monde connaît l'histoire. À la fin, il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui s'est élevée, qui a dit la lachel comme Rabbi Eliezer. Amad Rabbi Yeshua al raglav, Rabbi Yeshua a sauté et a dit Lo bashamaim, la Torah, elle n'est plus au ciel. Attention. Et comme ça, c'est la lacha. En mashgichim be bat kol, c'est-à-dire celui qui entend des voix, en mashgichim, ça ne sert à rien. Dieu a pu se révéler une fois, pas deux. La Torah elle-même le dit, parce que la Torah dit « Et les mitzvot, voici les mitzvot !» Et la Gemara dit « Et les mitzvot, voici !» Si Dieu vient et nous ordonne une 614e mitzvah, terminé. On a dit 613 et c'est fichu. « Et les mitzvot, voilà !» Comment quelqu'un peut se permettre de dire une chose pareille? L'alakha, c'est comme ça. « En majgichim me batkom. » Qui c'est qui possède la vérité? Qui c'est qui c'est? Lorsque moi je rédige un article, quelqu'un vient et me demande, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Je viens, je lui explique que ce que j'ai voulu dire par là. Il ne peut pas me dire, mais maintenant que j'ai payé mon abonnement, c'est à moi d'interpréter. Tu as payé ton abonnement, tu as reçu le journal, je vais t'expliquer ce que j'ai voulu dire. Si tu me réponds, l'Oba Shamaïmi, non, ça y est, terminé. Je vais vous dire, c'est marqué dans un midrash au commencement de Bereshit. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, il avait autour de lui Kitot, Kitot chez le Malachim, des anges. Quand on dit des anges, ça veut dire qu'il y a une idée dans l'air. L'ange, c'est Chaliar, ça veut dire celui qui réalise une idée. C'est-à-dire qu'il y avait différentes positions devant Akadosh Baruch Hu. Différentes sortes de vérités. Chesed Amar, Ibaré. Chesed, la mida, la qualité, l'expression de la bonté a dit, Ibaré, qu'il soit créé. Pourquoi? Chez Kulogom el Chassadim, c'est quelqu'un qui peut faire de bonnes choses. Emet Amar, la vérité est venue, a dit, Al Ibaré, il ne peut pas être créé chez Kulo Dover Shkarim. Il ne fait que mentir. Il n'arrive pas à la vérité. Le Midrash dit, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait? Ishli Remet Arza, il a jeté la vérité par terre. Chez Nehemar, comme il est dit, Emet Meretz Titzmach, la vérité viendra de la terre. Celui qui lit ce Midrash incompréhensible. Le début, on peut comprendre. Chesed, Emet, ça ne marche pas ensemble. D'accord. Mais tu jettes la vérité par terre, et ensuite tu dis, tu vois bien que Meretz Titzmach, ça, j'ai jeté quelque chose par terre, ça n'existe plus. Après, tu viens, tu dis, non, mais ça pousse. Comment ça pousse? Ça pousse. La vérité, le émet par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme dit le Rambam, en amitato que amitata chad me'elu, un émet, une vérité qui est une source, qui n'est pas une référence, l'homme n'est pas capable de ça. On va la mettre au niveau de la terre. Et maintenant, la vérité, elle va être exprimée par en bas, avec une référence, telle que je la comprends moi. Émet, me'eretz titzmach. La vérité, elle va venir de la terre, plus d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où cette volonté de création et ce but se sont exprimés, ils sont obligatoirement dénaturés par l'homme, puisqu'il est l'employé par l'employeur. À partir de ce moment-là, Ishli Remet Arza, ça ne veut pas dire qu'on l'a mis par terre, comme on dit en français, on l'a mis par terre, on l'a jeté. Ishli Remet Arza, ça veut dire que maintenant c'est le boulot de l'homme, ça n'est plus le boulot d'Akadosh Baruch Hu, c'est à vous de trouver, moi j'en ai assez dit. Et maintenant vous allez trouver tout seul. Donc si Akadosh Baruch Hu intervient, on lui dit non, non. En majgichim bebat kol, c'est pas la peine de s'égosiller, ça ne marchera pas. Ça, c'est l'alakha. Comme ça, on peut comprendre, regarde, vous pouvez comprendre le Midrash Parashat Titro, où il y a marqué que lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, les anges sont venus, ils ont dit, tu vas la donner à un homme. Les anges, c'est toujours une idée exacte. C'est ça ce qu'on appelle les anges. Et puis il s'est bagarré avec eux, il a discuté, à la fin, on lui a donné. C'est ça tout le problème. Comment situer ce qu'on appelle le Emet? Ça va très loin, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est à moi de fixer. Et puisque c'est à moi de fixer, le monde a été créé pour moi, alors Akadosh Baruch Hu suit. Parce qu'on avait dit qu'il y avait ces deux pôles-là. Il y a celui de la révélation, ce que tu peux percevoir, et puis là où tu commandes. Parce qu'il y a des moments où on ne peut plus demander puisqu'on n'arrive pas. Puisque ça a été coupé, puisque le Emet, on a été obligé de, Meretz Yitzmach, de le faire fleurir de la terre. À ce moment, tu ne peux pas venir demander encore de la révélation, encore ceci, encore de la nourriture, encore dépendre, encore non. Là, tu es obligé de te débrouiller tout seul. C'est ma vérité. C'est pas celle de la Kadosh Baruch Hu. C'est la mienne. Et puisque c'est la mienne, c'est celle de la Torah. Puisqu'elle a été donnée aux hommes, elle a été arrachée aux anges. Elle a été arrachée à la dimension qui était celle de la Kadosh Baruch Hu. Elle a été donnée à l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est au Chachamim, c'est au Bedim de fixer jusqu'aux lois de la nature. Si vous entendez bien. Parce que dans Yerushalmi, dans Ktuva, la Gemara dit les lois de la nature, les saisons, elles dépendent des Moadim. Pessar doit être à Pessar, Sukkot doit être à Sukkot, Shavuot doit être à Shavuot. On ne peut pas fêter les vendanges lorsque les raisins ne sont pas mûrs. Qui c'est qui va fixer les fêtes? Achodesh Azelachem, c'est vous. Et la Gemara explique le Patsou, lequel Gomer Alay, Akadosh Baruch Hu nous suit. Si le Bedin a fait une erreur, ça va être rectifié. Si dans le calendrier nous avons fait une erreur, ce sera rectifié. C'est-à-dire que la nature elle-même va se mettre au diapason de l'homme. Lorsque le Bedin fixe qu'il va avoir un troisième mois de Hadar, alors à ce moment-là, tout va suivre. Le Bedin pourrait dire que pendant 20 ans, il n'y a pas de mois de Hadar, ça marcherait comme ça aussi. Il n'y aurait pas de Pessah en plein hiver, jamais. Ça enlève un petit peu. C'est vrai que les Juifs ont toujours été très fiers du calendrier, puisqu'il a toujours été exact, il se réveille toujours exact aujourd'hui aussi. Maintenant, c'est déjà moins malin. Mais quand même. Peut-être me t'arrêter ça. Alors, on va revenir à la question. La question était, qu'est-ce que nous pouvons percevoir de Dieu? Qu'est-ce que nous savons? D'abord, nous savons ce qu'il nous en a dit. Et ensuite, nous savons par rapport à ce que nous nous sommes. Mais là, c'est à nous de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est émet. Et c'est ça les trois choses qu'on nous a demandées. Assot, ce que je fais. De même qu'Avraham Avinu, c'est celui qui est descendu dans cette fournaise. C'est lui, Assot, il faut faire. Ça, c'est la valeur de l'acte. Sans acte, c'est rien du tout. Ce que je pense, lorsque je lis un livre aussi, je pense. C'est lui qui a pensé, c'est moi qui ai pensé. Lorsque j'ai fait, je suis. Je suis ce que je produis. C'est vrai que je suis aussi ce que je mange. Et je suis peut-être surtout ce que je donne. Assot mishpat. Débrouille-toi pour faire la vérité, l'équilibre des choses vraies, la justice. Ahava chesed. Ce que tu apprécies, ça doit être le chesed. Pas ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour l'autre. Vatzne alechet imashem elokecha. Débrouille-toi dans tes exigences. Qu'est-ce que tu as besoin comme nourriture? Parce que ce qui va te rester pour après, ce n'est que ce qui est, pas ce que tu as eu. Et tu es déterminé dans ton être par ton avoir. L'avoir, ça peut être de donner, ça peut être de prendre, ça peut être d'emmagasiner, ça peut être de produire. Mais ce qui va déterminer l'être, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a aimé et comment il a marché. Bon, je crois qu'on peut passer aux questions. Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question. On va répondre aux questions. Il n'y a pas toutes les questions et après les réponses parce que c'est trop difficile. Le problème d'intervention, c'est l'intervention. Ça fait partie du problème. Nous avons dit, Anochi Hashem Elokecha Asher Otsetira, il fait partie de l'être d'Akadosh Baruch Hu, ce que nous en avons vu, d'être là quand on en a besoin. Eheye Asher Eheye. C'est ce que n'a pas osé dire Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'appelle avoir besoin? Et qu'est-ce qui s'appelle être là? Voilà tout le problème. Je vais expliquer en 2 minutes ce que je pense. Nous avons dit au nom de Rabbi Chaim de Volozhin, Nefesh HaChaim, que même si en ce qui concerne le problème est de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux, c'est à moi de juger. Mais je ne peux bâtir qu'avec un matériau. Je ne peux pas bâtir tout seul. Alors là, on est obligé de dire qu'il y a une intervention permanente. Cette intervention permanente, c'est à moi de la mesurer. Quelquefois, je la mesure selon ma volonté d'être, c'est-à-dire ce à quoi je tends, et quelquefois, je la mesure selon le mazon, ce que je veux recevoir, ce que j'ai besoin, pour être justement. Là se situe le problème d'intervention dans l'intervention. Si quelqu'un se demande au niveau de ce qu'il est de sa vie, puisqu'en fin de compte, chacun espère et chacun est sûr que ça ne s'arrête pas là. Et que le Olam Abba dont on parle, les Chachamim, ils trouvent toutes les sources possibles dans la Torah. C'est un besoin, une évidence, à partir du moment où on a pesé, que Vaipar Ba'apav Nishmat Chaim, ça veut dire que c'est quelque chose qui est indépendant, donc c'est existentiel, ça doit exister pour toujours. On est obligé d'avoir une certaine nourriture, une certaine aide, on est obligé d'avoir des béquilles. Puisque en fin de compte, il y a un début, peut-être de moins en moins. Peut-être de moins en moins. Et c'est vrai qu'on voit dans l'histoire, si on étudie un petit peu la biographie des Chachamim, que celui qui arrive de plus en plus haut à la madriga la plus haute de l'échelle, c'est celui qui en demande de moins en moins. Tout en sachant que tout ce qu'il fait, c'est sous-tendu. Que lui ne peut utiliser que le matériau. Le matériau, comment? Qui le fait tenir? La voix, il en demande de moins en moins. Ou parce qu'il estime qu'il en a assez. C'est ça, Odou Lachem Kitov Kilo Lam Razdo. Ou parce qu'il a compris que, en vérité, la vraie vie, elle est dans la situation qu'on est en train de vivre. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les problèmes, ce qu'on appelle l'épreuve. Mais ce qu'on appelle en parenthèse l'épreuve, c'est ça la vie. Ce n'est pas une parenthèse dans la vie, et qu'après ça ira bien. Et après, qu'est-ce qu'il y aura? Rien. Ce qu'on fait, donc il y a choix, donc il y a épreuve. Qui on aime et comment on marche, c'est ça ce qu'on appelle le Nisayan, c'est ça la vie. Tout le reste est rien. Tout le reste est le mazan, c'est l'avoir, pour pouvoir subsister. Alors à partir du moment où on est clair dans ce genre d'idée-là, l'intervention, ça devient un problème qui est très flou. Parce qu'il y a intervention permanente. ce que nous appelons, ce que nous disons dans l'Amida, Valnisecha Shebechol Yom Imanu. Celui qui sait voir, il va voir un nez permanent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, celui qui voit le nez selon les besoins qu'il a parce qu'il pense que ce qu'il est en train de vivre, c'est rien. Ça, c'est la parenthèse. C'est seulement lorsqu'il a quelque chose qu'il vit, alors celui-là, il ne voit pas le nez. Alors, on est obligé de lui faire un Yetziat Mitzrayim, on lui fait un grand coup, comme ça, une fois, il a vu. Donc, le problème de l'intervention, il est là-dedans. Maintenant, c'est très délicat parce que la question qui est sous-entendue, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je l'ai un petit peu effleuré dans le problème du Lotir Tsar, tu ne tueras point. L'indépendance, elle est à ce prix. Il y a un prix à payer à l'indépendance. Pas toujours demander où est-ce qu'il était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a une chose qui est certaine. On ne répond pas aux questions comme ça d'une façon facile, mais il y a une approche. Il y a quelque chose. Si vous ouvrez le Sefer Torah, dans le Sefer Torah, il y a deux parashiot, la parasha de Bechukotai et la parasha de Kitavo. Qu'est-ce qui a marqué dans la parasha de Kitavo? En fin de compte, il y a marqué une chose. Voilà ce qui va t'arriver, une liste de klalot incroyable. À mon avis, la pire, elle est de deux. Vaïta le zava le chol mamlachot haaretz. Tu seras zava, je ne sais pas comment traduire ça en français. Zava, ça veut dire un objet d'horreur. Le chol mamlachot haaretz pour tous les pays de la terre. Rashi dit, les autres, lorsqu'ils verront ce qui t'arrivera, ils seront horrifiés. C'est marqué ça. Vaïta le zava le chol mamlachot haaretz. Trois psukim plus loin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Vaïta meshuga mimareenecha. Ça veut dire, tu seras meshuga, fou de ce que tu verras. Ça veut dire, des événements que tu n'avais même pas interprétés. Ce que nous appelons le efker total, c'est-à-dire le laisser-aller, la non-intervention totale. C'est marqué ça. Il y a marqué pourquoi? Tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu. On a dit servir, ça veut dire se conduire dans une situation d'employé, pas d'employeur. Ça veut dire, sois saméach, apprécie, c'est ça la simcha, apprécie ta situation. Tu n'apprécies pas ta situation, c'est-à-dire ce qu'on t'a donné, que tu n'as peut-être pas choisi, mais on te l'a donné, tu ne l'apprécies pas, alors il y a un moment où tu te débrouilles tout seul. Vaïta le zava'a, le chol mamlechota haaretz. C'est marqué ça. Après on vient, on demande, pourquoi ceci, et la non-intervention, et le silence, et le truc. Alors, on voudrait bien que la liberté, elle s'arrête lorsque le mal commence. C'est-à-dire, on veut bien commencer un petit peu, mais lorsque... Non, la liberté doit s'arrêter. Ça, c'est le Emet d'Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que notre Emet, elle est tout à fait relatif. Parce que lorsque ça marche bien dans le rat, lorsque chacun se satisfait avec ce qu'il a, et c'est ça la vie qui mène, et il veut toujours satisfaire autre chose, il ne fait que de se nourrir, que d'avoir, là, il est tout à fait content. Sauf lorsque ça se retourne contre lui, parce que c'est l'autre qui veut avoir. Et lorsque l'autre veut avoir, quelquefois, c'est moi qui dois payer. Là, où est-ce qu'il est à Kadosh Baruch?
Je vais vous dire ce que j'ai entendu au nom de Rabbi Chaim Zonnenfeld. On dit que les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov se sont singularisés chacun par une qualité, par une mida essentielle. Abraham, tout le monde sait que c'est la mida, la qualité de Chesed. Yitzhak, c'est la qualité de Din, ce que nous disons Pachad Yitzhak. C'est-à-dire, de même qu'Abraham, sa qualité primordiale était la bonté, le chesed, Yitzhak, c'était l'observance stricte de la mitzvah. Yaakov Avinu, nous disent les Chachamim, sa mida, sa qualité principale était Emet, la vérité. Demande Rabbi Chaim Zonnenfeld, où voyons-nous que cette qualité de Yaakov s'est exprimé dans la Torah. Au point que nous disons Titen Emet le Yaakov, la qualité principale de Yaakov, c'est le Emet. Il répond et il dit ceci. Comment a vécu Yaakov Avinu? Yaakov Avinu est né d'un père, Yitzhak, qui représentait l'héritage d'Abraham Avinu. C'est à lui d'amener la Torah au monde. Et d'un autre côté,
un frère, Esav. Qui c'est ce Esav? Le pire du mal. Les choses sont claires. Ça c'est son père, ça c'est son frère. Et voilà que depuis sa naissance, la Torah nous dit, Ve Yitzhak Oev et Esav. Qui est-ce qu'il aime Yitzhak? Pas Yaakov, pas lui, Esav. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Alors nous, selon nos critères, notre logique, notre émette, on a deux possibilités dans notre logique, deux seules. Yitzhak, c'est pas vraiment Yitzhak, c'est pas tout à fait vrai tout ça. Et Esav, c'est pas tellement mal tout ça. Ou je choisis l'un, ou je choisis l'autre possibilité. J'ai pas d'autre possibilité. Ou Esav n'est pas Esav, ou Yitzhak n'est pas Yitzhak. C'est comme ça que nous nous raisonnons. Alors on arrive à concilier les deux choses. Yaakov est venu, il est resté pendant toute sa vie. Yitzhak, c'est le bien. Yitzhak, c'est le représentant d'Avraham Avinu sur terre. Esav, c'est Esav. Et Yitzhak, c'est Esav. C'est comme ça. Ça veut dire que il y a un émet qui est le nôtre et qui consiste à savoir poser la question et à savoir voir où est le problème. Maintenant, de le résoudre, ça ne fait plus partie du émet. Alors, dans l'intervention, c'est la même chose. Comment Akadosh Baruch Hu voit que Yitzhak, son fils préféré, son légataire, c'est qui? Esav, mais il faut intervenir là, ça ne marche plus. Viens, on va intervenir. Il y a un émet qui n'est pas le tien. Toi, tu dois choisir ton émet, la façon dont toi tu procèdes.
Que dire alors de l'enfant de deux jours, par exemple, donc qui n'a pas d'esprit critique, qui n'a pas d'instinct de mal ou de bien, qui est emmuré vivant en Égypte, parce que on rentre dans un plan divin qui est divin, qui est l'asservissement du peuple juif en Égypte. Il n'y avait pas de pacte, étant donné que la Torah n'était pas donnée. Où est la notion de justice dans ce cadre-là? Tu as une question? Non.
Ça suffit, hein. Il y a un verset dans Shir HaShirim. Le verset dans Shir HaShirim dit ceci. Cantique des cantiques. Et chézolanu shoalim, shoalim ktanim, mechablim kramim, ukramenu smadar. Et chézolanu shoalim veut dire, se sont attaqués à nous shoalim, des renards. Shoalim ktanim, tout petit, pas des gros. Mechablim kramim, qui endommage les vignes, ukramenu smadar, et notre vigne était jeune. Elle était faite de jeunes pousses. Voilà le texte du verset. Si regardez le Midrash, il traduit ça. Je vais vous dire ce qu'il traduit. Et Chézoulanou Shoalim, en Égypte, comment est-ce que faisaient les Égyptiens pour débusquer les enfants, pour les jeter dans le Nil, ou pour les emmurer, ou pour tout ce qu'on voulait? Ils amenaient leurs petits-enfants, Shoalim Ktanim, quelques mois, dans la maison d'un juif. Ils les pinçaient bien fort. L'enfant se met à crier. Et le petit juif qui était caché dans la cave au grenier, il pleurait en même temps. Et Chézoulanou Shoalim, Shoalim Ktanim, pas des gros, nous on n'est pas à la merci, on n'a pas besoin d'un tank. Shoalim Ktanim, Mechablim Kramim, c'est eux qui ont voulu tout détruire. Ou Kramenus Madar, notre vigne était jeune. Ça veut dire, il n'y a pas le clan Israël, la Torah, l'heure, Sinaï, Yéret, Israël, tout. Il n'y a pas encore ça. C'est-à-dire que ça renverse un peu la question. Au moment où on commence, on est à la merci de qui? Un petit Égyptien de quelques mois. C'est ça. Comment c'est possible? C'est ça l'interrogation du Shir HaShirim. Et Chézoulanou Shoalim, Shoalim Ktanim. Tu crois que pour détruire le clan d'Israël, tu as besoin de bulldozers? Non, pas du tout. Shoalim Ktanim. Et encore si on s'attaque à nous lorsqu'on est bien installé, non. Ou Kramenus Madar, on commence. Là vient le problème de Mida Kelegen Mida, le vrai problème. Est-ce que la vie que je mène, elle est la conséquence de ma conception des choses? C'est-à-dire, si j'ai peur du chien, est-ce que le chien va mordre? Ou non, c'est pas vrai, le chien il mord même si tu n'as pas peur. Le Midrash est très sévère avec Yaakov Avinu. Lorsqu'il a rencontré Esav, le Midrash dit ceci. Lorsqu'un chien est en train de dormir au bord de la route, tu n'as pas besoin d'aller le caresser et lui demander est-ce que tu veux bien me laisser passer. Tu passes. Il ne veut pas se réveiller. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a réveillé Esav. Il l'a excité. Et depuis, on souffre. Regardez le Midrash. Parshat Toldot. C'est-à-dire quoi? La vie que je mène, c'est vrai que c'est celle qui m'est proposée. Mais elle m'est adaptée. Tu as peur d'un choix, le katan? Tu as raison d'avoir peur, puisque tu as peur. Si tu as peur, c'est que c'est vrai qu'il est fort. Yaakov, tu as peur de Esav? Tu as un chien qui dort, tu as tellement peur que tu ne peux pas passer devant lui sans le réveiller pour lui demander s'il veut bien te laisser passer. Alors Bémet, il est réveillé. Ça dit le Midrash. Et qu'est-ce que ça veut dire au fond? Moi, c'est ce que je voulais dire en disant que l'épreuve, le problème, la difficulté, c'est ça la vie. Se nourrir, ce n'est pas la vie, c'est le support de la vie. Quand est-ce qu'on vit? Lorsqu'on voit les choses de telle et telle façon, lorsqu'on agit de telle et telle façon, lorsqu'on a peur de telle et telle façon, lorsqu'on n'a pas peur de telle et telle façon, ça la vie. Nous, on est habitués à penser le contraire. Parce que pour nous, dans la civilisation occidentale, il y a un début, il y a une fin. Puisqu'il y a un début, il y a une fin, hein, tout le milieu, c'est ça la vie. Tout ce qui empêche le milieu, c'est les problèmes. Comment on peut envisager qu'un enfant soit emmuré? Maintenant, je ne parle pas, pour l'instant, on a parlé au niveau du klal. Maintenant, au niveau du prat. On est obligé de penser que puisque les hommes sont différents, que Shem, Shepard, Soufé et Menam Shavim, de même que leurs visages ne sont pas les mêmes, Kardéotem et Nam Shavot, de même leurs pensées, leurs façons, leurs malotes, leurs madrigotes, ce qu'ils ont en eux, leurs neshamot ne sont pas les mêmes. Chacun a un but qui lui est propre. C'est d'être d'une certaine façon. Moi, je ne sais pas quelle est la limite. Mais peut-être que celui qui se présente devant Akadosh Baruch Hu, à deux jours, il a été emmuré parce qu'il fait partie du clan d'Israël, ça suffit pour être quelque chose. Il faut bien peser ses mots. Quand on dit le Hallel, on rigole. Et pourtant, il y a marqué Yakar de Ene Hashem Amavta la Chassidav. C'est marqué ça. Yakar, ça veut dire Yakar. C'est cher, c'est important. De Ene Hashem aux yeux de deux. Amavta, c'est quoi Mavet? La Chassidav. Ça, c'est inversé, on ne peut pas l'enlever. On le chante, c'est plus facile. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui justifie une existence? Qu'est-ce qui s'appelle être? Je ne suis pas sûr de la définition. Il faut voir dans la vie quelle est la définition. Cette neshama qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, quel est son vrai désir, jusqu'où il s'exprime, comment il va s'exprimer, ça dépend de chacun. Chacun y fait autrement. Chacun a une autre partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui insuffler comme volonté. Jusqu'où ça va, où ça débute, où ça termine, comment c'est, je ne sais pas. Quelquefois on choisit, quelquefois on ne choisit pas. C'est ça que j'ai dit, il y a deux pôles. Il y a ce que je choisis, ce que je ne choisis pas. Mais là où je ne choisis pas, je n'ai pas choisi de vivre non plus. Et de mourir lorsque je mourrai, je ne choisirai pas non plus. Et la façon, c'est peut-être celle-là que je choisirai. Et il y en a d'autres peut-être qui ne choisissent pas. Donc, ça c'est une chose qu'il est très difficile de juger. Qu'est-ce qui est Yakar Bené Hachem? Je ne suis pas sûr de le savoir. Dans ma vie à moi, je le sais. Selon ma DA, selon ce que je conçois, je sais. Selon ce qu'on soit un enfant, ce que conçoit un enfant de deux jours, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre parce que que Shem Shepard Soufé Melam Shavim Kardéoté Melam Shavot. Je n'ai pas le même date que lui. Je ne sais pas ce que ressent un fœtus lorsqu'on aspire avec un aspirateur, on ne sait pas la sécurité, je ne sais pas. Mais s'il vit, il doit ressentir quelque chose, il doit exister. C'est une vie, ça. Ça veut dire quelque chose. Je peux savoir au niveau du klal. Au niveau du klal, dans une certaine mesure, quelquefois il dépend de moi. Si je l'aspire ou je ne l'aspire pas, c'est mon affaire. À son niveau à lui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que je ne peux pas y toucher. C'est pour ça que je dois juger les gens selon ce qu'eux conçoivent et pas selon ce que moi je conçois. Ça, c'est la leçon que la Gemara rapporte à propos de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Nassi, le rédacteur de la Mishnah. La Gemara, elle dit, il a eu des alpi, a lieu des maasé, il était malade pendant une grande partie de sa vie, a lieu des maasé, il sourit une baouela, a lieu des maasé, alchou. À cause d'un maasé, c'est arrivé, à cause d'un autre maasé, c'est pas arrivé. Il a vu un veau qu'on a amené à l'abattoir. Et on dit que les animaux sentent ces choses-là, et le veau s'est mis à, je sais pas comment on dit pas vrai. On dit pas bêlé, je ne sais pas comment on dit. Il a peut-être pleuré. Alors, il a dit, Shtok, tais-toi, qui le car notre sauta. C'est pour ça que tu es là. Il faut bien manger. Allez, dit Issarimba, où il est devenu, il est tombé malade. Veux à lieu des maasé. Il y a eu un maasé qui a fait que il en est sorti. Comment? Il a vu sa servante qui était en train de balayer et puis elle a attrapé. Je ne sais pas comment on traduit exactement ce qui est marqué là. Ça ne doit pas être grand-chose puisque ça pouvait être balayé. Peut-être une fourmi, peut-être un rat, je ne sais pas. Il lui dit arrête. Verachamav al kol maasav. Rachamav y a marqué al kol maasav. La rachamim, la pitié de Kadosh Baruch Hu, ça va al kol maasav, sur toute créature. Allez, dis, souris-moi. Ça veut dire quoi? Il est possible qu'à cet être-là primitif, dont Pantsoufé, Melam Shavim, Deoté, Melam Shavim, je ne le comprends pas, je ne peux pas le comprendre, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas pourquoi il est là, je ne sais même pas s'il pense, mais je dois le juger selon ce qu'il a envie qu'on lui fasse, selon ce que j'ai envie. C'est comme ça que je dois juger l'autre. Donc la plupart du temps, je ne peux pas le juger, je ne peux pas savoir ce qui lui arrive, je ne le comprends pas. S'il a lieu de se plaindre, il se plaint tout seul. C'est un problème qui m'est étranger. La seule chose que je sais, c'est que chaque chose est sous-tendue par quelque chose, et que de même que je n'arrive pas à comprendre l'autre jusqu'au bout, c'est pour ça qu'on a deux émettes souvent différents, c'est pour ça que les Chachamim disent que c'est pour ça que la Torah, le Midrash dit qu'il y a même tête panim, 49 façons de dire oui, 49 façons de dire non, sur chaque din, chaque halakha de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une limite à la compréhension de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça que ça, je ne peux pas. La seule chose que je sais, c'est que à mon niveau, s'il lui arrive ça, c'est parce que j'ai peur. L'histoire du brit, elle n'est pas simple. Akadosh Baruch Hu a fait un brit avec Abraham Avinu avant la Torah. Le brit, il ne dépend pas de la Torah. Lorsqu'il fait l'alliance avec Abraham Avinu, il a dit qui guerrier Zaracha, Beretz Lolaim, ils seront étrangers dans une terre va'avadum, ils seront asservis, veut inouta torturés. C'est marqué, il a promis ça à Abraham Avinu. Arba Mot Shana 400 ans. Même là, il y a un choix à faire qui dépend de moi. Je veux dire pourquoi. Il y a marqué dans le Zohar, sur le verset, les Égyptiens ont asservi les Bnei Israël, il y a marqué Bechomer ou Bil Venim. Bechomer, c'est la glaise, la terre. Le Venim, c'est les briques. Ils ont été obligés de fabriquer ça. Il y avait un Chevet, les Levim. Eux, ils n'ont pas travaillé. Et dit le Midrash, ils ont travaillé autrement. Bechomer, Bekalva Chomer. Kalva Chomer, ça veut dire, ils ont interprété la Torah, ils se sont cassés la tête pour comprendre chaque mitzvah. Ils ont étudié. Ubil Venim Zeuli Bunoshel Torah. Libunoshel Torah, ça veut dire la difficulté qu'il y a à comprendre. Si quelqu'un prend une maserhet du chasse, il prend le Talmud, il commence à voir ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle Libunoshel Torah, ça c'est la difficulté. Ça veut dire quoi? Va Vadum Vinu Otam, tu dois être en Égypte. On doit être asservi. Quel asservissement? C'est à toi de choisir. Te reposer, tu ne te reposeras pas. C'est à toi de choisir. Il y a différentes façons d'être employé. La même ardeur que l'autre met à faire des briques, toi, tu peux la changer pour étudier. Ça, c'est marqué dans nos oreilles. Bechomer, kalva chomer, livenim, libuna shel Torah. C'est-à-dire que même cette gzera, même ce qu'Akadosh Baruch Hu m'impose, le cadre, c'est à moi de le choisir. La vie, elle m'est imposée. Le cadre, c'est à moi de le choisir. Chaque événement est imposé. La façon dont je le vis, c'est à moi de le choisir. Ce qu'on appelle Adam la Malioulad. J'ai parlé au niveau de ce qui arrivait. Les enfants des Levim, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont pas été enfermés. Ça veut dire que, dans une certaine mesure, ça dépend du père. Ça, c'est ce qu'on appelle le destin collectif. Maintenant, du point de vue individuel, je ne peux pas juger parce que ce que moi, je juge de mon point de vue individuel, c'est ma vie à moi, ma propre vie. Maintenant, quelle est la vie de cet enfant-là? Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Moi, j'ai des choses desquelles je me plains. Peut-être qu'il en a aussi. Maintenant, comment savoir ça, je ne peux pas le dire.
Il semble que Dieu a donné sa révélation et qu'après, il s'est retiré et il dit aux hommes, c'est à vous de décider maintenant. Et quand quelqu'un crie sous le roi Hakodesh, ou bien quand les Nevim viennent prophétiser, est-ce que ce n'est pas une émission de Dieu dans la vie?
Non, attention. Ça, il faut lire un peu les Nevim, ça sert. Les Nevim, ils ne viennent pas dire de nouvelles mitzvot. Ni comment se conduire dans tel et tel domaine, ni ceci, ni cela. Les Nevim, ils viennent seulement pour rappeler certaines choses au clan d'Israël. Les Nevim, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Quelquefois, les Nevim, ils prennent des noms effrayants. Celui qui vient avertir, ça prend le nom d'événements qui font réfléchir. Quelquefois, le Navi, c'est un homme, il vient et te dit, attention, rappelle-toi, voilà ce qui se passe, voilà les conditions de la vie. Quelquefois, ce n'est pas des Nevim, c'est des Malachim. Qu'est-ce que c'est les malachim? Le malach, c'est un envoyé. Je reçois un coup sur la tête, c'est un malach. La Gemara dit, Laïla, c'est un malach. Et la Gemara dans Nida dit, la nuit, c'est un malach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un message. Malach, ça veut dire envoyer un message. Le navi, c'est un malach. Le malach, c'est un navi. Chaque fois que je perçois quelque chose, les nevim, c'est des gens qui ont été envoyés pour que le clan Israël perçoive ce qui a marqué la Torah. Tu sais ce que la Torah est venue t'a dit. Attention. Ça, c'est le rôle des Nevim. C'est pour ça que j'ai dit, c'est ça ce qui a marqué. La Gemara dans Chagiga d'Avtet Zayin, la Gemara dit là-bas, Eile Amitzot, me lamed chez Navi Rachaï le Chadesh de Barmiata. Un Navi qui vient et qui me dit, voilà la nouvelle mitzvah de la Torah. Ou un Navi qui viendrait, un prophète qui viendrait et qui me dirait, voilà, il faut faire comme ceci et pas comme cela. Automatiquement, il est classé dans la catégorie Navi Sheker, ça tout le parachat de la Torah. Attention, ça c'est le rôle des Nevim. Aujourd'hui, il n'y a plus de Nevim. La nevoua, elle a été donnée à deux sortes. Parce que la nevoua aussi, c'est la faculté de voir l'avenir. À part le fait de venir et de rappeler les choses, c'est une certaine vue sur l'avenir. Parce que ce qui me corrige dans mon acte présent, c'est une certaine vue de l'avenir que j'ai. C'est toujours comme ça. Parce que c'est pour revenir à la case départ. Un enfant, on le nourrit, on lui apprend ceci, on apprend ça, il a une dépendance totale. L'avenir, c'est l'indépendance. Alors, pour voir l'avenir, aujourd'hui, il y a deux sortes de personnes qui voient l'avenir. Les enfants et les chotines. Les fous. Parce que c'est un regard différent du mien. Un enfant, la façon dont il s'exprime, c'est une façon pour moi de voir ce que je suis devenu et ce que je deviendrai par rapport au point de départ. Le fou aussi, c'est un autre regard. C'est pour ça que la nevoie, la prophétie, lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a été donnée aux enfants et aux fous. Parce qu'il faut que quelqu'un puisse avoir un autre regard que celui qui est imbriqué là-dedans. Mais en fin de compte, si ce qui est de la réprimande et du rôle du Navi par rapport au clan d'Israël, pas seulement d'annoncer l'avenir, mais de montrer ce qui se passe, ça, il n'y a pas de nouvelle mitzvah de la Torah.